Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur la Turquie pour cette édition en partenariat avec la revue Diplomatie dont le dernier numéro est consacré à la géopolitique de la Turquie. L'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis et plus généralement l'année 2021 ont fait entrer la diplomatie turque dans une nouvelle phase, semble-t-il. Au printemps dernier, les efforts d'Ankara pour renouer avec l'Égypte du maréchal Sisi ont constitué un signe tangible des mutations en cours. En juin dernier, la première rencontre entre Joe Biden et Recep Erdogan en marge du sommet de l'OTAN a confirmé que ces évolutions proche-orientales s'inscrivaient dans une dynamique plus large, celle aussi d'une amélioration des relations entre la Turquie et l'Occident. Le président turc semble avoir mis de l'eau dans son vin entre rapprochement avec les ennemis d'hier et renforcement de la présence régionale turque sur fond de redoutables défis sur le plan intérieur, tant au niveau politique, économique que social. Regard avec nos invités par téléphone depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Depuis les studios de nos confrères de Radio France, France Bleu, Isère, à Grenoble, Jean-Marc Roux, titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Laurent-Arthur Duplessis, journaliste, essayiste, auteur de Erdogan ou la haine de l'Occident, qui vient de paraître aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour.
Bonjour.
L'actualité afghane a mis un temps la Turquie sous les feux de la rampe avec la gestion qui lui a été donnée de l'aéroport de Kaboul, mais c'est finalement le Qatar qui a pris la main sur l'aéroport. Que sait-on de l'éventuel partage des rôles entre le Qatar et la Turquie et du rôle que veut jouer la Turquie en Afghanistan, Pascal?
Les choses ne sont pas encore complètement claires vu de ma place, mais j'ai le sentiment que Erdogan a très bien joué puisque il était sorti par la porte malgré ses tentatives de prendre le contrôle de l'aéroport de Kaboul puisqu'il a dû partir le 31 août avec les forces de l'OTAN comme les autres. Et puis il semble, c'est ce que j'ai compris, qu'il revienne un peu par la fenêtre grâce au Qatar puisque les premiers A400M turcs reviennent, accompagnent le C-17 qatari qui reviennent sur Kaboul. Moi, je trouve que ça illustre bien la capacité, la flexibilité et le pragmatisme d'Erdogan. La Turquie, en revenant à Kaboul, se rend indispensable auprès des États-Unis, comme elle l'est en mer Noire avec le verrou des détroits turcs. Et ça lui permet d'être un acteur qui renforce son influence dans l'Asie centrale et dans le Caucase, qui a toujours été un de ses objectifs, et puis d'être un interlocuteur avec tous les nouveaux acteurs de la région, donc la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Iran, et ça le positionne très bien. Donc pour la Turquie pourrait être le protecteur militaire d'un aéroport qui lui serait peut-être mis en œuvre avec les Qatariens. Il y a une répartition des rôles entre les deux qui reste à définir à mon avis, mais elle a toutes les capacités pour le faire.
Répartition des rôles et certainement aussi Jean-Marc Roux pour la Turquie redorer son blason vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis et faire oublier d'une certaine manière à Joe Biden les agissements turcs sous la présidence Trump. Et on peut rappeler et préciser également que la Turquie n'a pas fermé son ambassade à Kaboul, comme d'ailleurs l'Iran, la Chine et la Russie, Jean-Marc Roux.
Oui, d'ailleurs, je pense que je partage tout à fait l'avis de Pascal Hausseur. Je pense que la Turquie, d'une certaine manière, tout en renouant ou rénovant ses relations avec les États-Unis et notamment, comme vous l'avez dit, avec ce rapprochement ou en tout cas cette position modérée avec Joe Biden, essaye de poursuivre la politique un peu de l'entre-deux qu'elle a mené ces dernières années, c'est-à-dire une politique qui lui permet à la fois de rester dans l'OTAN, de s'y manifester comme un allié, et en même temps de nouer des relations avec d'autres partenaires partenaires et notamment de maintenir finalement son jeu multidimensionnel en Asie centrale vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. Donc c'est effectivement une lecture stratégique qu'il faut avoir probablement de cette affaire d'Afghanistan, beaucoup plus qu'une lecture idéologique. Je sais qu'on a insisté sur les liens idéologiques qui pourraient exister entre l'AKP et les talibans, ou sur l'histoire également diplomatique, parce que la Turquie ne part pas de rien. Elle avait des relations avec l'Afghanistan, notamment dès la période d'Atatürk. Elle ne s'est pas beaucoup impliquée aussi militairement dans le conflit comme les autres pays occidentaux. Donc elle a des atouts pour jouer finalement ce rôle d'intercesseur qui peut effectivement abonder dans cette relation, cet intérêt finalement que peuvent avoir les États-Unis vis-à-vis de ce partenaire.
Laurent Arthur Duplessis, des atouts donc pour la Turquie en Afghanistan, une carte à jouer pour Ankara et en particulier se garantir éventuellement des retombées économiques tout en faisant valoir sa singularité sur le terrain afghan.
Oui, en effet, l'Afghanistan est riche en matières premières qui sont un enjeu économique important qui intéresse à la fois les Chinois, les Russes et bien entendu la Turquie. Et effectivement, l'enjeu économique est tout à fait réel. D'autre part, un contrôle de l'aéroport de Kaboul, comme l'a indiqué M. Hausser, entre le Qatar, qui serait plutôt dans une fonction civile, et la Turquie dans une fonction militaire, présente un intérêt pour la Turquie, puisque contrôler l'aéroport de Kaboul, c'est véritablement contrôler les entrées et les sorties sur le territoire afghan de marchandises diverses et variées. C'est un rôle stratégique de première importance. Et effectivement, vu les bonnes relations de la Turquie avec le Qatar, cette collaboration est tout à fait envisageable. Et je serais tout à fait de l'avis de M. Marcoux qu'effectivement, le président Erdogan, avec son habileté coutumière, essaie de jongler en mettant en compétition, si je puis dire, d'un côté l'OTAN et donc au premier chef les États-Unis, et de l'autre côté notamment la Russie, puisque on a pu constater qu'il est allé à Sotchi rencontrer récemment encore le président Poutine et que ce dernier a accepté l'idée d'une augmentation de la coopération technique entre la Russie et la Turquie, notamment pour épauler l'effort turc de course aux armements, pourrait-on dire, et notamment aider les Turcs à développer encore plus vite qu'ils ne le font leur capacité navale militaire. Ils ont des chantiers navals extrêmement performants. Et puis, augmenter les capacités d'industrie militaire turque en matière de chars aussi. Et on a pu voir d'ailleurs déjà les réalisations industrielles turques dans le rôle joué par les drones turcs lors de la guerre du Haut-Karabakh. Ce sont des drones extrêmement performants qui ont joué un rôle décisif dans la victoire de l'Azerbaïdjan.
Absolument, et la diplomatie de plus en plus militaire de la Turquie, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, et très probablement que les interventions en Syrie, en Libye, ont accru cette capacité militaire, ou en tout cas ont servi de terrain d'expérimentation pour la Turquie. J'en reviens d'abord, si vous le voulez bien, à ce que j'évoquais en introduction, les relations avec l'Égypte. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère entre la Turquie et l'Égypte et par extension les Émirats arabes unis, dont un émissaire a fait le voyage d'Ankara l'été dernier. Turquie et Égypte, on peut le rappeler, étaient à couteau tiré depuis l'éviction forcée du président égyptien Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, par le maréchal Sissi. En 2020, la tension était montée d'un cran sur fond de guerre libyenne. Ankara soutenait l'administration reconnue par les Nations Unies à Tripoli, tandis que le Caire misait sur le maréchal Haftar appuyé par le président Sissi. Est-ce que la Turquie se rend compte du rôle pivot que joue l'Égypte. Je ne sais pas qui souhaite répondre en premier, Pascal Hausser ou Jean Marcoux.
Oui, moi je peux répondre.
Jean Marcoux.
Je pense effectivement que quelque chose s'est produit d'important, comme vous le disiez, au printemps, avec des tentatives de rapprochement. Enfin, il y avait encore des contacts de délégation ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que effectivement, je crois qu'on est dans le cadre de la nouvelle présidence Biden et dans la mesure où la Turquie souhaite rééquilibrer ses relations avec l'Occident, dans la mesure où elle a aussi un conflit avec la Russie potentielle, notamment en Syrie sur la zone d'Idlib, voire sur d'autres terrains, effectivement, cela faisait partie d'un rapprochement stratégique avec les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, au Proche-Orient, notamment l'Égypte, les pays sunnites du Golfe, avec lesquels elle était aussi en mauvaise relation. Mmh. Et donc, là, on a finalement quelque chose qu'il faut replacer dans la nouvelle présidence Biden. Ceci dit, c'est vrai que pour l'instant, rien n'est encore totalement joué. Moi, j'observe quand même que ce rapprochement prend quand même du temps, qu'il est laborieux. Après des effets de manche spectaculaires, bon, on a l'impression quand même que les choses ne vont pas tout à fait d'elles-mêmes. Il ne faut pas oublier que l'Égypte et la Turquie, qui sont deux pays pivots, comme on le disait au Proche-Orient, deux portes hein, finalement du Moyen-Orient, ont toujours eu des relations finalement assez complexes. Et donc je dirais que ces fondamentaux d'inconstance hein, finalement expliquent aussi cette relation malgré tout difficile et ce rapprochement qui est un petit peu laborieux.
Pascal Hausser.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean Marcoux. Il y a un effet Biden et la volonté de montrer un peu patte blanche à cette nouvelle administration qui avait eu un début de relations assez vigoureux avec la Turquie, puisqu'il y avait, la reconnaissance du génocide arménien, il y avait un certain nombre de décisions et de prises de position sur la démocratie également, qui pouvaient montrer que cette nouvelle administration mettait la barre un peu haut en termes de relations et en rupture avec les relations personnelles plutôt bonnes que Trump avait entretenues avec Erdogan. Ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait un renversement d'alliance parce que Erdogan et finalement c'est l'intérêt de la Turquie. Il ne fait qu'appliquer l'intérêt de la Turquie dans cette nouvelle géopolitique. Voudra, à mon avis, maintenir une forme d'ambiguïté et toutes les portes ouvertes avec tous ses interlocuteurs. Donc oui, il y a une tentative d'ouverture vers l'Égypte, vers l'Arabie saoudite, vers les Émirats, vers Israël. Donc on sent bien qu'il y a aussi la capacité, et c'est une des grandes caractéristiques de la politique d'Erdogan, la capacité de rétro-pédaler, si je puis dire, en quelque sorte. Quand les choses ne vont pas bien, on l'a vu plusieurs fois avec la Russie, quand on était arrivé à un niveau de tension trop important. Mais là, on le voit par exemple en Tunisie, où finalement les Turcs sont en train de lâcher un petit peu. Et Narda s'entend que ça, il y a un point de blocage qui est en train de se créer à Tunis, mais c'est pas pour autant, à mon avis, que la politique de la Turquie va fondamentalement changer. Je pense qu'Erdogan va tenter une fois de plus, et avec pas mal de succès, tenter de ménager la chèvre et le chou, d'aller flirter avec les limites, sans aller trop loin, en étant capable de rétro-pédaler si besoin, et de se placer finalement à la poignée de l'éventail, c'est-à-dire comme un acteur incontournable pour tout le monde. Et actuellement, les États-Unis ont besoin de la Turquie pour la mer Noire, pour l'Afghanistan, et les Russes ont besoin de la Turquie, pour la mer Noire d'ailleurs aussi, pour l'accès à la Méditerranée, pour la Syrie, et finalement tout le monde est obligé de s'entendre peu ou prou avec la Turquie, mais avec des... c'est aussi une caractéristique. Une tentative toujours d'aller chercher les limites et donc de rapport de force permanent avec une capacité de revenir un peu en arrière lorsque les choses vont trop loin.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, acteur incontournable, je fais mention de ce sondage publié récemment par Arab Barometer en avril dernier, qui donne le Erdogan comme étant le dirigeant le plus populaire du monde arabe, devant largement ses principaux rivaux régionaux que sont le prince héritier d'Arabie Saoudite ou le guide suprême d'Iran. C'est juste une petite mention au passage. Mais tout de même, par rapport à ces rapports de force permanents, ce qu'on sent, c'est que, alors quand je parlais de mutation en introduction, ces tentatives de réconciliation avec les principales puissances arabes anti-islam politique, après des années de tensions et de rivalités provoquées par ces politiques agressives et militarisées. Qu'est-ce que l'on peut dire, Laurent-Arthur Duplessis, de ces ouvertures? Est-ce qu'il s'agit d'une réconciliation ou d'un simple climat de détente, voire d'une autonomisation de la politique étrangère turque?
Eh bien, je dirais que le président Erdogan alterne avec habileté le chaud et le froid. Il avait monté la tension à son paroxysme à l'été 2020 avec les frictions concernant les zones d'exploration de gisements gaziers sous-marins en Méditerranée orientale. On se souvient qu'à ce moment-là, il y avait même eu un incident grave avec notre frégate Le Courbet et une frégate turque qui a illuminé Le Courbet par trois fois parce que Le Courbet, dans le cadre d'un mandat onusien, voulait arraisonner un cargo qui faisait route vers le port libyen de Misrata et qui était manifestement chargé d'un stock de matériel lourd, notamment de chars, pour les combattants islamistes envoyés par Erdogan pour servir les intérêts du gouvernement de Tripoli. Cette tension avait été paroxystique et le président Erdogan fait ce qu'il a toujours fait, c'est qu'après, il souffle le chaud, il fait retomber la tension avant une nouvelle crise. Et à ce sujet, je voudrais rappeler que justement, cet enjeu gazier en Méditerranée orientale reste tout à fait en suspens. Et l'Égypte s'était fortement émue d'un accord passé entre la Turquie et la Libye pour établir une zone de protection turco-libyenne qui allait à l'encontre de l'accord sur les zones d'expansion économique maritime de 1982, signé par 147 pays. Et l'Égypte elle-même s'était tournée vers un rapprochement avec Israël, Chypre, la Grèce, pour contrer ces menées turco-libyennes. Et il s'avère que la Turquie est toujours engagée en Libye, aux côtés du gouvernement de Tripoli contre les troupes du maréchal Haftar, puisqu'on sait que la Libye est en quelque sorte bicéphale. Et il y a là des tensions locales qui contiennent, je crois, les ferments de nouvelles tensions à venir, et notamment, je pense, à l'approche des élections présidentielles et législatives de juin 2023, où le président Erdogan devra essayer de compenser la diminution de sa popularité au sein de l'électorat turc pour des raisons de marasme économique grandissant et un marasme économique qui n'est pas prêt sans doute de s'inverser. Et à ce moment-là, il fera ce qu'il aime faire dans ces cas-là, c'est-à-dire ressusciter des tensions internationales pour créer un réflexe patriotique d'union sacrée autour de lui et par ce fait-là, essayer de remporter la victoire aux élections de 2023. Il avait joué cette carte, par exemple, en 2015. En juin 2015, il avait été déçu par les résultats aux législatives où l'AKP n'avait pas eu la majorité suffisante pour que puisse être votée une réforme constitutionnelle. Et il avait provoqué de nouvelles élections à l'automne, mais entre-temps, il avait poussé les tensions avec les Kurdes, il avait envoyé des forces massives de gendarmerie et militaires dans les provinces kurdes pour ressusciter une flambée de violence et créer un réflexe sécuritaire autour de lui. Il avait ainsi obtenu de gain de cause électoral. Je crains qu'il fasse pareil à l'approche de juin 2023.
Alors c'est encore loin, mais on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Laurent-Arthur Duplessis, avec Jean Marcoux qui est à Grenoble et Pascal Hausseur à Toulon. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Turquie pour cette édition en partenariat avec la revue Diplomatie, dont le dernier numéro est consacré à la géopolitique de la Turquie. Nous retrouvons nos invités depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Depuis Grenoble, les studios de France Bleu Isère, Jean Marcoux, titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Et en studio, Laurent-Arthur Duplessis, journaliste essayiste, auteur de Erdogan ou la haine de l'Occident, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On a terminé la première partie de l'émission sur ce constat des mutations de la politique étrangère turque. Est-ce qu'elle correspond, cette politique étrangère turque aujourd'hui, à une fragilité croissante et un besoin de sécuriser la Turquie dans un environnement plutôt instable et la volonté d'Ankara d'étendre son influence pour devenir l'acteur de référence dans le jeu de puissance régionale, Jean Marcoux?
Je crois qu'effectivement, on a évoqué tous ces sujets récemment, en particulier Méditerranée orientale, Libye, Caucase. L'année dernière, la Turquie a mené une politique très offensive à la fin du mandat de Donald Trump, qui était une politique également d'une suite de coups tactiques assez bien joués, mais qui malgré tout, finalement, sur le plan stratégique, ont produit un isolement assez inquiétant de la Turquie et une certaine inquiétude des Turcs qui voient finalement leur gouvernement s'engager militairement sur toute une série de théâtres qui sont assez incertains. Et donc, dans la prévision, effectivement, des élections de 2023, dans un contexte de marasme économique. Mais il faut le signaler également, il y a aussi d'autres sujets, d'autres dossiers très concrets qui inquiètent à l'heure actuelle l'électorat turc. Je pense en particulier aux migrations qui sont les conséquences directes d'ailleurs des événements dont nous parlons, la grande inquiétude. Bon, après les migrations syriennes qui se sont manifestées finalement avec force jusqu'à 2016-2017, il y a désormais des migrations importantes qui viennent d'Irak, qui viennent d'Iran, qui viennent surtout d'Afghanistan. La grande inquiétude au moment de la crise afghane, c'était ce qui se passait sur la frontière iranienne. Et il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, la Turquie construit des murs sur toutes ses frontières. Donc les migrations, mais il y a aussi cet été un autre gros sujet d'inquiétude qui a été l'environnement, avec la pollution de la mer de Marmara, avec les incendies géants auxquels on n'avait jamais assisté dans le sud ouest de la Turquie, avec des inondations à nouveau extrêmement spectaculaires dans les provinces de la mer Noire. Donc effectivement, tous ces sujets fragilisent Recep Tayyip Erdogan, qui continue par ailleurs à vouloir afficher une politique de grands travaux qui est un petit peu en contradiction aussi avec cette dégradation de l'environnement. Dès lors, il a intérêt finalement à calmer le jeu sur le plan international, intérêt à calmer le jeu sur le plan de ses frontières direct, à essayer de rassurer de ce point de vue-là l'électorat. On a également vu d'ailleurs qu'il avait repris contact avec l'Union européenne, et on sait que les Turcs restent malgré tout très relativement pro-européens ou pro-intégration européenne dans les sondages. Donc là aussi, c'est une manière de rassurer l'électorat en montrant qu'on n'est plus dans cette offensive un petit peu débridée qui avait eu lieu l'année dernière avec de beaucoup tactiques, mais enfin avec une stratégie qui n'était pas au rendez-vous.
Alors là, est-ce qu'on peut parler effectivement de réajustement également? Jean Marcoux vient d'aborder la question de la relation entre la Turquie et l'Union européenne. Elle s'était, la Turquie, progressivement éloignée ces dernières années des valeurs défendues lors de sa candidature à l'Union européenne en 1999. Alors à défaut de parler de rupture, ce qu'on peut voir peut-être, c'est un réajustement. Il n'en demeure pas moins, Pascal Hausseur, qu'on a le sentiment que la Turquie Turquie se voit comme investie d'une mission avec les yeux de plus en plus rivés vers l'Orient davantage que l'Occident. Est-ce qu'on se trompe ?
Non, la partie compliquée pour Erdogan, parce que ça, il a la fragilité interne qui vient d'être rappelée. Mmh. Il sait antagoniser beaucoup de monde autour de lui et il a une insécurité qui s'est créée autour de la Turquie générale et tout ça perturbe et notamment l'électorat qui sera vital en 2023 pour l'élection du centenaire de la République. Donc une élection pour laquelle il attache énormément d'importance, bien entendu, pour devenir un homme qui rentre dans l'histoire. Mais en même temps, je pense que les fondamentaux, tels qu'ils sont perçus par la Turquie en général, et pas simplement par Erdogan, mais par beaucoup d'acteurs en Turquie, et puis surtout beaucoup d'acteurs dans le monde, en Russie, en Iran, en Chine, dans le monde musulman, les fondamentaux restent les mêmes, c'est-à-dire une bascule est en train de s'opérer, une forme de désoccidentalisation du monde en général, et de cette région en particulier, qui donne de la marge de manœuvre aux pays qui ont une ambition stratégique. Et il me semble que la Turquie fait partie de ces pays-là, mais l'Iran également, la Russie bien entendu, trois grands empires qui ont encore des restes d'ambition géopolitique majeure et qui se disent « la porte s'ouvre, la fenêtre d'opportunité s'ouvre, il faut la saisir ». Alors Erdogan est quelqu'un qui fait de la politique avec, je trouve, pas mal de brutalité, mais quand même beaucoup de pragmatisme et de réalisme finalement. Mmh. Il sait, il part assez vite. Il va quelquefois aux limites, mais il sait revenir en arrière. Et il sait s'adapter à un monde changeant, ce qu'il est en train de faire. Donc c'est effectivement, sa politique d'apaisement vis-à-vis de l'Europe a du sens. Finalement, un apaisement un peu tout azimut, puisque apaisement avec les Russes, il était à Sotchi très récemment, apaisement avec ses concurrents sunnites anti-islam politiques, on en a parlé, et il tente sa chance. Profil bas dans la promotion des frères musulmans et de l'islam politique dans la Méditerranée, ça participe aussi finalement d'un réalisme assez intelligent. Mais en même temps, il est capable d'annoncer un deuxième batch, une deuxième livraison de S-400, sachant bien que ça va évidemment fortement irriter les États-Unis. Il est capable de faire un partenariat industriel avec l'Ukraine, qui est bon vis-à-vis des États-Unis, mais évidemment très agaçant vis-à-vis des Russes. Bref, il continue à prendre des postures qui, d'une certaine façon, lui permettent d'essayer d'optimiser son jeu, l'utilisation de son jeu, et de voir où est-ce qu'il peut y avoir un espace de manœuvre qui lui permettra, je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent-Arthur Duplessis, sur le fait que une des cartes sur lesquelles Erdogan pourra jouer en 2023, parce qu'en 2023 l'économie ne sera pas florissante, les migrants ils seront toujours là, le problème kurde évidemment est un problème pérenne, donc les indicateurs ne seront pas au beau fixe. En revanche, le levier nationaliste est un vrai levier qui parle à la population turque, en tout cas une bonne partie de son électorat. Et je pense que s'il peut trouver quelques marges de manœuvre qui lui permettront d'afficher des succès et de se présenter à cette élection du centenaire de la République comme le nouveau Atatürk, je pense qu'il jouera cette carte et il faut s'attendre à quelques surprises et quelques coups de force d'Erdogan. Il nous l'a montré dans le passé, il est capable de flexibilité et de surprendre ses partenaires et ses adversaires.
Alors je le disais tout à l'heure, Laurent-Arthur Duplessis, Erdogan présenté comme le plus populaire du monde arabe, il n'empêche qu'à l'intérieur, Erdogan fascine de moins en moins en Turquie.
Oui, c'est vrai, et la dégradation de la situation économique joue un rôle considérable dans la dégradation de la popularité du président Erdogan. Il faut se souvenir que l'AKP, depuis son arrivée au pouvoir en 2002 de M. Erdogan, est cofondée avec Abdullah Gül, jusqu'en 2014, avait surfé sur une croissance économique remarquable. Et l'AKP, il faut bien dire, avait mené une politique de libéralisme économique qui avait mis l'économie turque particulièrement en phase avec l'essor de la mondialisation des échanges économiques. Et pendant ces années-là, s'était développée toute une nouvelle classe d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, issus du plateau anatolien, formés dans les imams hatip, les écoles religieuses, comme Erdogan lui-même. Et cette nouvelle classe entrepreneuriale a été le catalyseur d'une croissance économique turque tout à fait remarquable Et l'AKP en a été largement crédité par les électeurs, et donc les succès électoraux se sont enchaînés, grosso modo, jusqu'en 2014. Mais ensuite, la situation économique a fini, elle aussi, par se dégrader, notamment à cause du contexte mondial qui s'est beaucoup assombri. Et du coup, évidemment, le retentissement électoral est arrivé par des résultats électoraux plus laborieux. Et c'est là, d'ailleurs, où on voit que, du coup, le président Erdogan a joué beaucoup plus sur la carte des crises internes ou externes. Internes, notamment avec les Kurdes. Externes, avec, par exemple, les enjeux gaziers de l'été 2020. Et puis, l'interventionnisme aussi en Syrie. Et puis, via l'Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de dire l'amiral Husser. C'est que, pour l'instant, Erdogan est dans une phase d'accalmie. Mais comment pourra-t-il remporter une victoire en 2023 en mettant uniquement en avant des résultats économiques qui ne seront sans doute pas au rendez-vous et en mettant en avant bon, une politique de grands travaux là, avec ce nouveau canal, par exemple, pharaonique, mais enfin, qui ne font qu'accroître le surendettement de l'économie turque? Comment pourra-t-il gagner les élections avec une inflation galopante et non maîtrisée, avec une monnaie turque de plus en plus dévaluée et avec donc un pouvoir d'achat des Turcs qui ne cesse de se dégrader? Donc, il faudra qu'il joue, là encore, la carte des crises, mais alors ça peut être aussi relancer le conflit avec les Kurdes à l'intérieur pour rejouer le coup de 2015, c'est-à-dire créer un réflexe unitaire autour de sa personne, ou alors une crise internationale.
On parlera aussi de l'Arménie, puisque vous évoquez le conflit en Azerbaïdjan. Jean-Marc Roux, Erdogan peut perdre l'élection de 2023
À l'heure actuelle, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, les sondages notamment, même si à l'heure actuelle ils sont aussi sous la pression du gouvernement, la situation politique est quand même assez inquiétante pour lui, avec la montée du mécontentement, notamment on l'a vu en 2019 lors des élections municipales, défaite qui avait été quand même marquante, et particulièrement à Istanbul, qui est une ville clé pour Erdogan parce qu'il y avait gagné les élections municipales et il avait construit sa carrière à partir de 1994. Donc il y a effectivement des sujets d'inquiétude et donc c'est la raison pour laquelle, bon, dans la mesure où l'économie n'est pas au rendez-vous, dans la mesure où, comme je le disais, il y a d'autres sujets qui en permanence, sujets sociaux, économiques, sociétal, la question de l'environnement qui perturbe en fait les projets d'Erdogan pour cette élection, les grands travaux qui ne convainquent plus, il va falloir trouver d'autres sujets. Et c'est vrai que le réflexe nationaliste est d'autant plus une piste intéressante qu'il ne faut pas oublier que, bien sûr, ce n'est pas que de la politique étrangère, ce n'est pas que de l'offensive sur des fronts extérieurs. Il y a finalement un débat très nationaliste et des crispations nationalistes autour de la question kurde. Et on le voit récemment, en fait, le parti d'extrême droite MHP, le parti du mouvement nationaliste avec qui Erdogan est allié, relance souvent par avance, en quelque sorte, des thèmes de campagne, des thèmes d'offensive. Et Devlet Bahçeli, il y a quelques jours, disait encore qu'il n'y avait pas matière à parler de la question kurde ou de problème kurde en Turquie, qu'il n'y avait pas de problème kurde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à l'heure actuelle une procédure qui est engagée devant la Cour constitutionnelle pour dissoudre le HDP, qui est le parti kurde à l'heure actuelle, troisième formation au Parlement. On voit bien qu'ici aussi, il y a ce levier nationaliste et puis il y a également des préoccupations qui sont tout à fait matérielles, qui est que si ce parti est interdit, plus de 400 cadres de ce parti seront également interdits de politique, ne pourront pas se présenter. Et ce qu'espère Recep Tayyip Erdogan, justement, c'est de récupérer, finalement, à cette occasion, une partie des sièges que n'aura pas le parti turc. Donc il y a là, je dirais, dans ce levier nationalisme qui a un écho à l'intérieur du pays, une piste qui est également intéressante. Et puis, de toute manière, je dirais que c'est la politique étrangère et d'une certaine manière la fermeté, cette idée qu'on tient finalement la barre, est aussi importante dans le contexte politique intérieur turc, parce que l'autre problème est aussi que même si Erdogan n'a plus totalement la majorité, en réalité, il est face à une opposition qui est divisée. Et le grand problème, pourquoi l'opposition a gagné à Istanbul et Ankara, notamment, essentiellement parce que les Kurdes se sont abstenus de présenter un candidat. Donc là, c'était une élection locale. La configuration d'une élection locale n'est pas finalement la configuration d'une élection nationale. Parce que dans une élection nationale, on le voit bien, même si à l'heure actuelle, les partis d'opposition, en particulier le parti kémaliste, essayent de frayer un petit peu avec l'électorat kurde, malgré tout, ne pourra pas conclure une alliance et créer une grande alliance de l'opposition contre Erdogan, justement, parce qu'il ne peut pas, sur le plan nationaliste, s'allier directement et ouvertement avec les Kurdes. Donc tout ça fait une équation qui permet aussi à Erdogan d'espérer pouvoir conserver le pouvoir et gagner ces élections à ce moment, c'est-à-dire au moment du centenaire de la République, qui est un moment clé.
Alors, on en reparlera parce que effectivement 2023 est encore loin. Mais donc, tous, vous avez évoqué ce levier nationaliste. Pascal Hausseur, la question de l'Arménie est un autre sujet. Que signifie, à vos yeux, la nouvelle main tendue à l'Arménie? On peut rappeler les tensions particulièrement vives qui ont eu cours à l'automne 2020 avec le conflit militaire opposant Erevan à Bakou dans le Haut-Karabakh, lors duquel Ankara a soutenu l'Azerbaïdjan. Là aussi, volonté d'apaisement de la part d'Erdogan, est-ce qu'on peut imaginer une normalisation entre Erevan et Ankara, Pascal Hausseur?
Je pense que c'est une illustration de la capacité d'Erdogan à adapter sa posture en fonction des oppositions qu'il a face à lui. Aujourd'hui, il n'a pas intérêt à s'antagoniser la Russie plus qu'il ne l'a fait sur ce théâtre. Ils ont réussi, après l'engagement turc aux côtés de l'Azerbaïdjan, où les Russes avaient pris une posture finalement d'attentisme et avaient réussi à revenir dans le jeu à la fin du conflit, mais finalement actant de la victoire des Azerbaïdjanais aidés par les Turcs contre les Arméniens. Donc la posture turque était plutôt favorable. Les Russes étaient revenus dans le jeu. Et je pense que, moi c'est l'analyse que je fais, Erdogan a senti qu'il avait été un peu à la limite de ce que les Russes pouvaient accepter dans leur arrière-cour. Et donc là, ça coûte pas très cher d'essayer de calmer le jeu avec l'Arménie pour stabiliser ce point. Et si je veux continuer ce qui a été dit juste avant, on voit bien que le levier nationaliste est un levier, donc la politique extérieure va être un levier de politique intérieure pour fédérer l'opinion publique derrière son chef. Et quand on regarde finalement où est-ce qu'il y a de la marge de manœuvre pour Erdogan, face aux Russes, on voit bien qu'il a été suffisamment loin et qu'il est plutôt dans une phase d'accommodement. Face aux États-Unis, là aussi, il s'autorise quelques écarts avec les S-400, etc. Mais on voit bien aussi qu'il y a quand même quelques... Il paye son tribut en Afghanistan, en Ukraine, vis-à-vis des États-Unis. Face aux pays sunnites et Israël, on fait des efforts. Dans le Maghreb, on se rend bien compte qu'on a été peut-être un peu loin à soutenir les mouvements des frères musulmans et on fait la pédale douce pour calmer. Finalement, quel est l'adversaire potentiel qui est considéré comme suffisamment faible ou pas suffisamment coordonné pour pouvoir riposter et s'opposer véritablement? C'est l'Union européenne, c'est donc la Grèce, Chypre et les Balkans qui sont d'une certaine façon le ventre mou, la possibilité peut-être pour Erdogan de faire un coup qui ressoude sa population derrière lui sans avoir une opposition trop forte qu'il aurait s'il faisait la même chose face aux autres acteurs.
Oui. Alors Laurent Arthur Duplessis, en très très peu de temps.
Je partage totalement l'analyse de l'amiral Hausseur. L'Europe, c'est le ventre mou, mais je félicite le président Macron d'avoir tranché sur cette mollesse par une attitude énergique face à la Turquie au moment de la crise gazière de l'été 2020.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à chacun. Amiral Hausseur, vous étiez avec nous par téléphone depuis Toulon et vous êtes directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Merci aussi à Jean Marcoux depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère. Jean Marcoux qui est titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Et Laurent Arthur Duplessis, journaliste, essayiste, auteur de Erdogan ou la haine de l'Occident, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de la Birmanie. À demain.